おかしいおかしい。ちょっとちょ
Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais présentée ce soir par Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Bonsoir. Hausse de prix alimentaire mondial, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale appellent les États membres à intervenir d'urgence pour éviter une crise alimentaire aux populations. Les deux institutions financières internationales ont lancé cet appel le week-end dernier. D'après la Banque mondiale et le FMI, la misère due au doublement des prix alimentaires pourrait affecter près de 100 millions de personnes vivant dans des pays pauvres. Des populations à travers le monde et l'Afrique ont manifesté leur colère face à cette situation. En Afrique, on peut citer des pays tels que l'Égypte, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, qui est un pays de l'Afrique centrale, a également connu les mêmes manifestations de colère contre la vie chère. À la base de cette hausse de prix alimentaire mondial, les experts pointent du doigt le prix du pétrole brut. Le baril est estimé depuis hier à 115 $, soit le triple en 3 ans. En RDC, la Banque centrale confirme cet état de choses. D'après le constat de Radio Okapi, les prix du riz, manioc et maïs notamment ont doublé sur le marché. La RDC peut-elle échapper à cette crise ? Quelles mesures pour stabiliser les prix de biens de première nécessité ? C'est le sujet de discussion dans ce dialogue entre Congolais. Parmi les réactions de nos auditeurs et internautes, Zalabo nous écrit depuis Istiro dans la province orientale. Pour lui, tant que la politique du pays néglige l'agriculture et compte beaucoup sur la dépendance extérieure, nous connaîtrons, dit-il, toujours une instabilité économique. Quant à Zarni, depuis Berne en Suisse, la RDC est en crise alimentaire relative ou absolue depuis longtemps. Pourtant, c'est avec ces institutions internationales que les dirigeants actuels ont élaboré leurs politiques, budgets et autres. C'est donc un cercle vicieux dans lequel on tourne depuis longtemps. Nous avons invité pour vous Patrice Ezati Mérico. Il est sénateur, vice-président de la Commission économique, financière et bonne gouvernance. Richard Mukoj, chargé de marketing et clientèle à l'entreprise Orgaman. Et puis Al Kitenge Lubanda, il est économiste, analyste économique et éditeur d'un magazine économique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Hausse de prix alimentaire mondial, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale appellent les États membres à intervenir d'urgence pour éviter une crise alimentaire aux populations. La RDC peut-elle échapper à cette crise? Voyons d'abord la situation sur le marché quinois. Depuis le week-end dernier, des denrées de grande consommation telles que le riz, le manioc, le maïs, le ciment, sucre, poisson et pain ont presque doublé de prix. Certaines ménagères rencontrées au marché central de Kinshasa déclarent ne rien comprendre de cette majoration survenue en l'espace d'une semaine. L'une d'elles explique son calvaire. Elle est au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Tous les prix ont augmenté. La maison de la farine de manioc, dite Sakombi, est aujourd'hui à 150 au lieu des 100 francs congolais. Celle de la farine de maïs est vendue 200 alors qu'elle était à 150 il y a peu. Aussi, un kilo de chinchard est parti de 900 à 1300 francs congolais. La maison de sucre de 180 est vendue à 220 francs congolais. Il y a également la maison de riz est passée de 150 à 250 francs congolais. Celle de haricot est partie de 500 à 750 francs congolais. À propos de pain, ils ont carrément diminué le en gardant le même prix, celui des 100 francs congolais, qui ne convient même plus aux petits enfants. Cette situation doit en tout cas interpeller les autorités. À cette allure, comment allons-nous vivre? J'ai 8 personnes sous ma responsabilité, et pour les nourrir tous, il me faut 6500 francs congolais chaque jour.
Pour te lire bien, je l'aime bien, mais il faut te dépenser au moins 6500 francs.
Même situation à l'est du pays, particulièrement à Goma, suivant les ménagères au marché Virunga du chef-lieu du Nord Kivu au micro de notre consoeur Rosalie Zawadi.
Mabeza chakula zinapanda sana, juu kilo isha panda, uka kwa sa kauze samaki, kauze nyama, unakia kwa kukilo ya nyama, 1,800 francs. Unakia makuta kwa kama uze nini, maisha kwa teseka sana.
Na mbele mkwana uza vile kilo ya nyama kumulati.
Kilo ya nyama tukwana ya uza 1,200 francs, melo ya nakua 1,800 francs.
La femme que nous venons d'écouter dit que c'est compliqué. Elle payait les kilos de viande des bœufs à 1200 francs, mais aujourd'hui c'est 1800, même 2000 francs au marché. Et les poissons également, les prix a pris l'ascenseur, quoi, parce qu'on ne sait plus payer la viande ou les poissons tellement ils sont devenus chers. Il y a des ménagères qui, face à ces situations, demandent à leur mari de revoir à la hausse l'argent des dépenses journalières qui leur laisse d'écouter cette femme que nous avons également rencontrée au marché.
Unaishiwa. Njoo ile baba, baada ya kutupatia $10, yale nasiye kitu tutakuwa na emea mzuri. Juu bei inapanda.
Voilà, Richard Moukoge, ça fait un peu rire évidemment, c'est un peu cet appel de la dame qui réclame qu'elle ait $10 au lieu de $5 pour faire le marché. Richard Moukoge, vous ici vous êtes chargé de marketing et clientèle à l'entreprise Orgaman. Je ne sais pas si les prix donnés au niveau du marché de Goma, de Virunga, donc à Goma et à Kinshasa, est-ce que vous confirmez ou ces prix-là ont encore évolué aujourd'hui?
Je confirme l'augmentation des prix dont les vendeurs sont en train de parler tout à l'heure. Ces augmentations, elles ne vont pas s'arrêter. Comme l'a dit, donc, je suis vice sur RFI ce matin que donc, la Banque mondiale est en train de sortir déjà tirer la sonnette d'alarme, que les prix vont continuer à augmenter. En ce qui nous concerne, donc, les prospections que nous faisons pour les importations déjà d'un bateau qui doit arriver au mois de juin, les augmentations des prix qu'on nous annonce déjà, surtout en Europe, sont de l'ordre de 30 à 40%. Donc, ça dit que d'ici un mois, les prix que nous avons actuellement vont encore connaître une augmentation de l'ordre de 30 à 40%.
Est-ce que vous pouvez être un peu concret, hein? Le carton, je sais que vous vendez Orgaman, vous vendez du poisson. Concrètement, c'est combien aujourd'hui et dans un mois, ça sera combien si vous parlez de 30% d'augmentation?
Je peux bien dire, donc, pour ce qui concerne l'Europe, si je peux prendre le prix d'un carton des côtés des ports, qui sera actuellement à $30.
Ouais.
Donc, le prix qu'on nous annonce pour les bateaux que nous faisons pour le mois de juin, donc il faut ajouter 30%. Donc, ça vous fait pratiquement $39.
$39 en Europe.
Donc, ça veut dire le prix vendu Kinshasa.
À Kinshasa.
Oui. Ouais. Ça veut dire si nous achetons aujourd'hui, il y a augmentation des prix de 30% là-bas, donc cette augmentation se répercute sur Kinshasa.
Donc, celui qui achète ce carton de côte de porc à $30 aujourd'hui, dans un mois, il doit se préparer à acheter à $39.
Oui, et à cela, donc, sans tenir compte donc, de la perturbation qu'il y a sur la parité euro-dollar. Donc, il y a des jours, l'euro s'est changé à 1,57$ et aujourd'hui, donc, il est à 1,61$. Et tout ça se répercute sur le prix, parce que donc, la plupart des produits que nous importons proviennent de l'Europe. Et ça subit donc cette inflation du dollar par rapport à l'euro.
Mais Alki Tenge Lubanga, vous intervenez plus en tant qu'expert parce que vous êtes économiste de formation avec beaucoup de casquettes encore toujours dans ce domaine. Est-ce qu'en RDC c'est un problème de pénurie alimentaire ou c'est plutôt la hausse de prix qui pose problème et qui doit en fait qu'on doit craindre?
Merci beaucoup Jean-Claude. J'aimerais dans ce cas de jeu de vous dire que la spéculation a un rôle extrêmement important dans tout ce que nous sommes en train de vivre, déjà sur la place internationale. Mais lorsqu'on est une économie aussi vulnérable que la nôtre, c'est encore beaucoup plus grave. J'aimerais vous donner les causes réelles de la situation actuelle sur la place internationale qui se répercute chez nous. Le premier élément, c'est la crise économique aux États-Unis avec le crédit à risque immobilier. Le deuxième élément, c'est l'alignement aveugle chez nous de toute la vie économique sur le dollar, alors qu'en réalité, il n'y a pas de véritable parité. Vous savez par exemple que lorsque le dollar perd de la valeur, le franc congolais n'en augmente pas automatiquement, ce qui est tout à fait illogique. Le troisième point, c'est la pression sur les produits alimentaires liée au simple fait qu'aujourd'hui, il y a une préférence vers les biocarburants qui se trouvent être le nouveau marché et qui paye très bien. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a les changements climatiques qui ont un impact extrêmement important, il y a la désertification et donc la baisse de la production mondiale. À partir de ce moment-là, tout de suite, l'offre devenant totalement inférieure à la demande, la spéculation devient très forte. Il se joue beaucoup de choses, aussi bien pour les produits alimentaires que pour le pétrole, que pour les produits de construction en termes de matériaux. Et de ce point de vue, il faut savoir que la vulnérabilité de notre économie est liée au simple fait que le Congo n'a pas une politique intérieure de production. Nous subissons de manière directe les soubresauts de l'économie internationale. La question qu'on se poserait aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons des dispositifs capables de nous permettre d'atténuer la situation ? La réponse est non, c'est trop tard pour prévenir. Maintenant, il faut essayer de regarder de quelle manière nous allons subir tout cela avec un peu moins de choc, avec un peu plus de philosophie. Mmh. Et là-dessus, il y a deux paliers qu'il faut tout à fait distinguer. Mmh. Ce sont les gens qui vivent en ville et les gens qui vivent dans les milieux ruraux. Ceux qui vivent en milieu rural le ressentiront à un
deuxième degré. Les paysans, par exemple, quoi.
Ils le sentiront moins. Ça peut surprendre. Mais ceux qui vivent en ville le sentiront directement parce que ils vivent avec le salaire, ils vivent avec ce qu'ils gagnent directement et ils sont confrontés à une vie moderne organisée. Et donc, comme dans un sens, comme dans un sens, comme dans un autre, nous subissons les coûts de l'économie internationale plus dans le milieu urbain que dans le milieu rural. C'est d'ailleurs pour ça que dans les pays africains où il y a eu des grèves, il n'y en a pas eu dans le milieu rural, il y en a eu dans le milieu urbain. Mmh. Et donc, il faudrait se rendre compte que nous sommes extrêmement fragiles, nous sommes extrêmement vulnérables, et si nous ne faisons pas attention, la pression sociale va monter très, très fort, et les pouvoirs politiques de part et d'autre peuvent en tirer profit pour déstabiliser encore davantage la situation, et nous pourrons aller de cycle en cycle, et ça ne pourra être que très négatif.
Oui, vous allez peut-être déjà vous aborder pratiquement les mesures que le gouvernement doit prendre, mais je repose encore ma question, est-ce que c'est un problème de pénurie alimentaire que la RDC peut connaître, ou c'est juste cette hausse de prix, Al Kitenge, encore une fois?
C'est la dépendance. Il faut savoir que nous dépendons des importations en grande partie. Et à partir du moment où nous dépendons des importations, très malheureusement, nous allons connaître une véritable pression sur deux éléments. Le premier, c'est notre balance commerciale et notre capacité à payer à l'importation, parce que ça demande des devises. Parce que le marché devenant beaucoup plus grand, notre gagnant restant la même, la quantité que nous pourrons être en mesure d'importer avec l'argent que nous avons va diminuer. Ce qui veut dire qu'en fait, même sur la place congolaise, les quantités des biens vont être de plus en plus minimes, et donc la spéculation va être encore beaucoup plus grande, et les prix peuvent monter encore plus vite que sur le marché international.
Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau, Ezati Mereko, Patrice, vous êtes sénateur, vice-président de la Commission économique, financière et bonne gouvernance, par rapport à tout ce qui se passe, je suppose qu'au niveau du Sénat, vous vous penchez sur la question.
Merci beaucoup pour la question. Je crois que tout à l'heure cet après-midi, nous venions de parler de plus ce problème d'inflation importée que vit notre pays présentement. Comme dit mon prédécesseur, je crois que nous n'allons pas échapper à cette situation de crise internationale. Et vous vous rappelez, avant l'indépendance, notre pays intervenait pour les exportations de produits agricoles jusqu'au niveau de 59%. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 50% d'importation de produits alimentaires. Ce n'est que normal qu'on subisse directement cette inflation importée au niveau des villes. Mais nous venons de vacances parlementaires à l'intérieur du pays. Et c'est vrai, mon professeur a dit, cette crise va se ressentir moins au niveau de l'intérieur. Parce que les faits ne sont pas les mêmes. Mais nous, quand vous avez cité l'exemple de Saint-Charles, parce que ce phénomène n'existe pas à l'intérieur du pays.
Vous avez cité le problème des cotises,
dont les prix ont pratiquement triplé depuis décembre et novembre. Cette réalité n'existe pas à l'intérieur du pays. Donc, c'est ça la situation.
Pourquoi ça n'existe pas à l'intérieur du pays?
Parce qu'au niveau de l'agriculture, je sais qu'il faut parler ici, mais la base de l'agriculture, c'est l'intérieur, ce n'est pas sur le boulevard des 30 juin qu'on cultive ici, c'est à l'intérieur du pays qu'il faut produire. Et là, il y a un autre handicap, raison pour laquelle les infrastructures sont inscrites dans les 5 chantiers de la République, il y a un problème d'infrastructure routière.
Il faut faire vite, non?
Pour acheminer ces produits vers les centres urbains où ils sont très demandés. Mmh. Donc, il faut faire vite. Et comme il a dit, nous ne pouvons pas subir cette inflation importée d'une manière passive, il faut agir pour limiter les dégâts. Nous ne pouvons pas échapper sur le plan économique.
Donc au Sénat, vous y pensez?
Nous y pensons, et cet après-midi nous allons parler dans le cadre de loi sur les assises que le gouvernement vient d'instaurer. Nous y pensons, nous y réfléchissons. On ne peut pas subir ça d'une manière passive, quoi, j'ai.
On va arriver à vous, excusez-moi, Kitenge, le nom est parti. D'abord avec Richard Mokoj, qui ici représente un peu les opérateurs économiques, donc ceux-là qui importent. Vous reconnaissez que la RDC dépend beaucoup des importations extérieures.
Oui, affirmatif, comme l'a dit donc, M.
Kitenge.
nous dépendons beaucoup plus de l'extérieur. Mais je voudrais revenir sur une question que vous avez posée sur la carence.
La pénurie ou la hausse de prix, est-ce que c'est ça le problème majeur en fait?
Il y a pénurie. Et la pénurie s'annonce donc. Parce qu'il a dit tout à l'heure, donc, je peux prendre le cas de l'Argentine. L'Argentine, c'est le seul pays où il y a plus. S'il y a 30 millions d'Argentins, il y a 35 millions de bovins. Mais actuellement, donc, tous les élevateurs.
Ils ont produit beaucoup de.
Oui.
Qui est vaches, mettons, et tout ça.
Actuellement, avec le problème de l'éthanol, de biocarburant, les gens. Il y a un revirement. Les gens sont beaucoup plus sur l'agriculture, parce que s'ils font dans son champ de maïs et le tournesol, ça se vend mieux qu'il faut d'avoir donc, des bêtes bovines. À ce moment-là, donc, aujourd'hui, en Argentine, il y a même interdiction d'exportation de viande bovine d'Argentine.
Voilà, c'est une des raisons selon vous qui expliquerait la
carence. Il faut qu'ils équilibrent, non, il faut que, donc, que les gens. Qu'on intéresse beaucoup, les gens beaucoup plus à l'agriculture, donc à l'élevage qu'à l'agriculture. Il faut équilibrer. Parce que donc, l'élevage dépend de l'agriculture. Donc le bête doit manger donc, du céréal qui est cultivé. Maintenant, donc, les gens commencent à vendre donc, du céréal au biocarburant.
Voilà.
Donc ça paye donc, mieux que donc, de vendre ça aux éleveurs.
Mmh. Là, donc vous persistez qu'il y a
pénurie. En deuxième lieu, donc, le poisson pioli. Il y a. Un mois, il y a eu pénurie de poissons donc, dans la ville de Kinshasa.
C'était dû à quoi?
La pêche, donc ça dit le poisson s'est fait rare dans la mer. Et il y a le gouvernement namibien, parce que nous dépendons beaucoup plus de la Namibie, a pris même des mesures donc, de diminuer des quotas de pêche à certains chalutiers pour pouvoir donc, permettre aux poissons de se reproduire. Même alors, donc, dans 10-15 ans, peut-être qu'on n'aura pas encore assez d'épicerie.
Mais est-ce que ce poisson, c'est juste une petite question qui me vient à l'esprit, est-ce que ce poisson, on ne peut le trouver qu'en Namibie et pas en RDC, Richard Mokonj?
L'impiodie, c'est un poisson de mer. Il faut avoir des côtes de pêche. Actuellement, en Afrique, l'impiodie est pêché beaucoup plus en Namibie.
Avec Manda, c'est pas possible?
Non, il est pêché en Namibie, en Mauritanie, au Maroc et un peu en Angola.
Voilà, donc c'est pas possible d'avoir le pioli, mais au moins on peut avoir d'autres poissons.
Je voudrais encore revenir sur ce que l'honorable a dit tout à l'heure. Il a dit que donc, la crise que nous connaissons, c'est beaucoup plus dans la capitale qu'à l'intérieur.
Ouais, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Je ne suis pas d'accord, donc, parce que vous vous rappelez, lorsqu'on était encore donc, élève, on avait étudié donc, la pêcherie de Wagenya, à Kisangani. Ça n'existe plus. Kisangani dépend maintenant de Kinshasa parce que l'impiodi passe de Kinshasa sur Kisangani. Vous allez à Kikwit. Parce que donc, tous les impiodis qu'on impose, donc, ça ne s'arrête pas à Kinshasa, ça va à Kikwit, à Kisangani, dans les deux Kasaï, au Katanga. Chose qui n'existait pas.
Donc il n'y a plus assez de pêche en fait à l'intérieur du pays. Voilà.
Disons que tout le monde maintenant s'intéresse aux minerais.
Voilà. Al Kitenge, il y a un auditeur qui nous a écrit, il nous a même appelé, lui, monsieur, il s'appelle Monsengo de Kinshasa, à ne pas confondre avec l'archevêque. Il pense qu'il faut responsabiliser les paysans en leur fournissant des moyens nécessaires. Parce que tout à l'heure, vous avez soutenu la thèse comme quoi c'est en ville qu'on ressentirait beaucoup plus la pénurie et pas à l'intérieur du pays, ce que rejette d'ailleurs Mokoj.
Non, il ne rejette pas. On le ressentira beaucoup moins à l'intérieur du pays. C'est de toute évidence, hein, de toute façon. Et je ne voudrais pas m'attarder sur ça. Je voudrais revenir sur deux choses et revenir à votre question. La plus grosse faute du gouvernement congolais aujourd'hui, c'est l'absence des réserves. Et lorsque la Banque mondiale et le Fonds international disent aujourd'hui, il faudrait que les pays réagissent. Ils sont en train de dire, gérez intelligemment vos réserves. Et nous n'en avons pas. Il y a deux types de réserves. Il y a des réserves en dur, ça veut dire les stocks, comme Moïse Laurent Kabila a essayé de mettre en place ici les réserves stratégiques. Les États-Unis en ont toutes les matières, y compris dans le pétrole. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très actifs sur le marché.
Est-ce qu'on produit suffisamment pour arriver à avoir des réserves?
Il y a deux intelligences là-dessus. Soit que vous avez de l'argent et vous achetez, vous faites des réserves et vous êtes en mesure de tamponner, soit alors vous travaillez, vous produisez et vous réservez. Mais je voudrais revenir sur le sens que donne le FMI et aujourd'hui, ils disent qu'il faudrait que les gouvernements prennent des dispositions. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez la situation congolaise, nous n'avons pas les moyens de réagir. Et donc, il y a deux situations. La première, elle est au court terme, ça veut dire les choses que l'on peut faire rapidement pour être en mesure d'atténuer la situation. Mais la plus grande interpellation est sur le long terme, sur les choix politiques. des choix qui favorisent la production intérieure, parce que malheureusement, on a pillé notre intérieur. Et du fait que l'on a pillé notre intérieur, nous nous retrouvons aujourd'hui dans les grands centres, en nous pavaner, les ventres creux, en train de rouler dans les rames. Et l'intelligence voudrait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire des infrastructures. Nous sommes en train de faire des infrastructures de routes et ferroviaires. Nous devons être en mesure de les faire de sorte qu'ils intègrent, ou qu'elles intègrent le pays, qu'elles intègrent l'économie de notre pays. Sinon, on sera complètement perdant pendant longtemps. Parce qu'il ne faut pas faire des routes pour le plaisir de les faire. Il faut faire des routes qui servent à l'intégration du pays. Et l'honorable tout à l'heure l'a dit de manière assez claire, il faudrait que nous arrivions à joindre les centres de production aux centres de consommation. En fait, ça pose toute la question de la circulation de l'argent. Mais au jour d'aujourd'hui, de quelle arme dispose le gouvernement, pour répondre à votre question? La seule arme dont dispose le gouvernement, elle va vous choquer, c'est la planche à billets. Il faudrait bien que le gouvernement tourne la planche à billets, qu'il injecte l'argent le plus loin possible en province, là où on produit, qu'on achète au prix que cela coûte à l'intérieur les biens et qu'on les ramène vers les centres de consommation. Parce que notre gouvernement n'a pas d'argent pour faire autre chose. Il y a un risque toujours, il est lié à la peur que nous avons eue de la gestion de Mobutu, à savoir si on imprime les billets, les gens vont les utiliser pour acheter de l'argent sur la place publique. Ça, c'est de la délinquance de comportementale. Et je suppose en passant que notre peuple et nos dirigeants ont suffisamment mûri pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Mais il reste...
Excusez-moi, Al-Kitengé. Acheter comme ça auprès de paysans, en procédant par la planche à billets, c'est pourquoi? Pour constituer les réserves?
Pour stimuler la production et acheminer les biens qui tardent dans les centres de production vers les centres de consommation. C'est la seule arme, je ne vois pas une deuxième dont le gouvernement dispose. Et mettre de l'argent probablement dans l'amélioration de la logistique. Il reste quelques actions tactiques, comme par exemple l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. Vous savez par exemple que quand les biens viennent de l'Équateur et arrivent aux différents beaches ici, il y a au moins 3 ou 4 paliers avant que cela n'arrive chez le consommateur.
Il y a
moyen de travailler sur l'optimisation de la chaîne de distribution et être en mesure de contrôler le prix. Mais ça, c'est des petites choses. Mmh. Les grandes choses sur le moyen terme consistent à nous assurer que les gens qui produisaient commencent à produire en commençant par leur acheter ce qu'ils ont déjà pour l'instant.
Voilà.
Et je pense que si nous faisons ce lien, ça peut nous permettre d'atténuer tant soit peu. Mais toute l'intelligence est dans le fait que nous devrons nous doter d'une économie de production intérieure et augmenter notre dépendance interne beaucoup plus que notre dépendance externe.
Merci Al-Kitengé, ça nous permet, puisque vous avez déjà anticipé, ça nous permet d'entrer dans la deuxième partie de cette émission, hausse de prix alimentaire mondial. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale appellent les États membres à intervenir d'urgence pour éviter une crise alimentaire aux populations. Deuxième partie de cette émission, quelles mesures pour stabiliser les prix des biens de première nécessité en RDC? On en parle tout de suite.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelles mesures pour stabiliser les prix des biens de première nécessité en RDC? L'économiste Kanonji Ntalaja, professeur à l'université de Kinshasa, qui situe la RDC parmi les pays économiquement fragiles, propose 3 pistes pour stabiliser les prix de produits alimentaires de première nécessité. Il parle notamment d'une action sur les taxes. On écoute le professeur Kalonji au téléphone de Guillaume Junapala.
Je vois, à mon avis, 3 possibilités. La première possibilité, c'est que la RDC baisse la taxe douanière de certains produits alimentaires de première nécessité. Ça va se répercuter sur les prix. La deuxième possibilité, c'est de revoir le taux de taxation des intrants de certains opérateurs économiques du secteur alimentaire. Et la troisième option, c'est de consentir un effort de solidarité nationale en prenant, par exemple, entre 15 et 20% de la rémunération de la classe des nantis, je parle du gouvernement, des PDG, et cette somme-là servirait à subventionner certains biens alimentaires. Et dans le même ordre d'idée, je vois la possibilité de négocier avec la FEC comment elle peut contribuer à cet effort de solidarité nationale.
Patrice Zaki-Mérico, je vous ai vu secouer un peu la tête quand le professeur parlait. Vous ne semblez pas d'accord avec lui qui propose notamment la baisse de taxes à l'importation des produits alimentaires. Hein, le cas des chinchards que importe Richard Moukonge. Mais c'est à vous d'abord de dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition. Avant de revenir à ce que Al Kitting a proposé tout à l'heure.
Oui, je vous ai dit au départ que nous étions en position d'exportation de nos produits agricoles
qu'il y a avant l'indépendance.
Et pourquoi on ne sait pas
Au fil des années, nous avons nous-mêmes détruit notre tissu économique par de pillages à 91, à 93, dont les effets se font ressentir jusqu'à aujourd'hui. Une telle situation qui nous surprend devait être gérée d'une manière responsable en amont. Maintenant, nous la subissons. Quand le professeur propose une détaxation de produits alimentaires, dans la situation présente, moi je ne trouve pas que c'est une solution.
Pourquoi?
Mais c'est plutôt la deuxième formule qu'il faut creuser, diminuer les taxes pour les intrants en rapport avec les produits agricoles pour stimuler la production de ces produits.
Ça peut être quoi par exemple, les intrants pour ces produits alimentaires ou stimuler la production alimentaire? Quoi par exemple dont il faut baisser la taxe?
Par exemple, ceux qui sont dans le secteur de transport, qui vont chercher des produits à l'intérieur ou c'est pour les amener dans des centres urbains, si on peut leur donner des conditions préférentielles de transport, c'est un exemple que je donne. Je prends le cas des Bakongo, qui est tout près. Il peut y avoir des produits à Tchela. De Tchela jusqu'à Kinshasa, la route est asphaltée. Donc, on peut soit diminuer de taxes sur les moyens de transport, de matériel roulant, utilitaire, pour aller chercher ces produits. Ça, c'est plus concret et plus immédiat.
Et là, il n'y a pas que le Bas-Congo, il y a aussi...
Je vais te donner l'exemple.
Oui, oui. Et pour ceux qui nous suivent...
Pour tous les pays qu'on va se comporter comme ça.
Ouais.
Je répète à ce que mon collègue de droite a dit, en ce qui concerne la façon dont on ressent cette crise en ville, plus forte que dans les milieux ruraux. Mais moi, je persiste, je signe, j'en viens, je sais ce que je veux dire.
Oui, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de Mpiodi Chacha à Kisangani...
Mais qu'on n'est pas de Mpiodi Abunia, qu'on n'est pas de Mpiodi Amangi, qu'on n'est pas de Mpiodi Aru. Non. Donc, quand je parle, on parle de milieux urbains, c'est y compris la ville de Kisangani. Ça, c'est la ville. Donc, quand nous faisons allusion à des milieux ruraux, d'où nous venons, où nous allons à vacances, nous vivons des réalités.
Oui.
Mais ça se sent moins qu'en ville.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, en ville, le mois dernier, nous observons la situation depuis le mois de novembre dernier. Ça s'accentue tous les jours. Et nous les vivons parce que nous mangeons à Kinshasa.
Oui.
Et qu'est-ce que nous mangeons? Tout vient de l'extérieur.
Voilà, là vous avez fait cette mise au point, mais revenons aux mesures, parce que vous avez déjà commencé par rapport à ce qu'a dit le professeur.
Oui.
Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur... C'est la baisse des taxes sur les produits alimentaires qui sont importés, mais par contre, vous êtes d'accord avec le professeur Kalonji sur les intrants pour stimuler la production. Mais Ankitenge, tout à l'heure, a évoqué la question de la planche à billets, faire tourner la planche à billets, notamment, pour stimuler cette production, prendre l'argent, aller à l'intérieur, dans nos campagnes, essayer d'acheter tout ce qu'il y a comme production qui pourrit. Est-ce que vous soutenez comme mesure?
Mais pour le moment, nous sommes en train de conjuguer toutes les mesures, tous les efforts qui peuvent atténuer cette situation que nous vivons. On ne sait pas éviter. Donc, toutes ces mesures sont bienvenues pour arriver à un résultat, atténuer cette situation pour qu'on ne la vive pas d'une manière dramatique.
Mais est-ce qu'il y a une autre mesure, à part ce qui vient de dire, Prof. Kalonji, Ankitenge, au niveau du Sénat, vous êtes quand même vice-président de la Commission économique, financière et bonne gouvernance. Est-ce que vous avez une autre proposition que vous estimez meilleure comme mesure, en fait, pour éviter que la RDC ne vive pas cette crise qui s'annonce avant de passer
Moi, je vois plutôt les mesures d'une manière anticipative.
Comment
Tel que nous sommes dans cette situation, c'est déjà vécu, c'est déjà subi. On ne peut plus rien faire. Mais il faut plutôt voir demain. Demain, c'est-à-dire qu'il faut se replonger dans le costume de production pour arriver à constituer des réserves.
Donc, faut relancer
soit en argent, soit en production en dur.
Je vais revenir sur la proposition du professeur tout à l'heure et la relativiser un petit peu. Parce que vous savez, si aujourd'hui l'État se démunit de quelques moyens par la réduction des taxes à l'importation, la conséquence est toute simple. Cet argent ira dans la poche des intermédiaires. Parce que la loi de l'offre et de la demande sur le marché ne permettra pas que cette répercussion sur la taxe se retrouve au niveau du prix. Regardez ce qui se passe avec le ciment aujourd'hui. Le prix à l'usine reste le même, les intermédiaires empochent le différentiel.
Donc ça bouge sur le prix.
Absolument, oui. Ce sont les intermédiaires qui vont gagner de l'argent. Par contre, sur le moyen et le long terme, je pense qu'il faut absolument se doter aujourd'hui des décisions politiques qui nous permettent de ne pas dépendre demain de des importations à l'extérieur. Entre autres choses, je vais choquer mon frère qui est en face.
Richard Moncon,
il faut prendre des mesures drastiques sur l'importation des poissons et autres. Il faut stopper. Nous sommes un pays de 60 millions de personnes sur 2 345 000 km², mais laissez-moi vous choquer, l'Inde, c'est 1 200 millions de personnes, ils sont sur à peine 3 200 000 km². Vous vous rendez bien compte de la pression que eux ils ont sur la terre et la pression que nous avons. Il y a rien, on ne fait rien du tout sur notre superficie. Il faut donc que nous prenions.
Il faut qu'Orgaman ferme. C'est ça que vous voulez dire.
À très court terme, il faudrait que Orgaman ferme ou qu'il se convertisse en société industrielle de pêcherie. C'est extrêmement important et c'est patriotique. Si les promoteurs des sociétés comme Orgaman aiment ce pays parce que ce pays les nourrit, ils doivent commencer à penser à intégrer l'économie. On a beaucoup plus à gagner à pêcher à l'intérieur du pays et on a un fleuve et des lacs et des rivières extrêmement poissonneux qui ne demandent qu'à être exploités. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'accès à la mer, mais nous avons beaucoup de lacs, beaucoup de rivières et nous avons tout un fleuve. Mais encore une fois, c'est comme l'élevage. Il est stupide pour un pays comme le nôtre de continuer à importer de la viande des pays désertiques comme la Namibie, l'Afrique du Sud, alors que nous sommes...
On peut produire sur place.
Nous sommes bénis, nous avons la pluie toute l'année, pratiquement sur l'étendue de la République. C'est honteux d'importer de la viande d'un pays comme la Namibie, qui est désertique. Il faut y aller, regarder ce qui se passe. Et autre chose, il faut quand même vous dire qu'en termes de production agricole, nous avons les capacités de faire de la production de consommation, mais aussi de la production d'exportation. Souvenez-vous du caoutchouc, du cacao, du café, du thé et de tout le reste. Et ça a été des éléments réels de notre économie. Il faut donc investir de l'argent chez nous, le plus loin possible à l'intérieur du pays. Mais il est grand temps aujourd'hui qu'il faille que l'on dénonce quelque chose d'extrêmement grave qui est arrivé dans ce pays. On a confondu des opérateurs politiques en des opérateurs économiques. Chaque fois qu'il y avait des crédits de l'État, on le donnait à des politiciens. Ce n'est pas leur métier, c'est une faute grave, il ne faut plus jamais la recommencer. L'économie,
pour donner
aux opérateurs économiques purs et durs. Eux, ils ont la capacité, un, de craindre l'État parce qu'ils ne font pas les lois, ils ne les supervisent pas, ils sont en dehors de l'État, ils peuvent donc être contrôlés par l'État. Deux, c'est leur métier que de faire de l'argent, que de produire, que de transformer et de faire avancer. Et donc, il faudrait que nous puissions être en mesure de favoriser la production locale et la valeur ajoutée locale. Et c'est extrêmement important, nous avons les capacités de nous adresser au monde extérieur en termes d'exportation. Mais la dernière chose que je voudrais dire, et elle est tout aussi importante, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, ni scientifiques, ni financiers, ni en termes de ressources humaines, de faire tout ça tout seul. Il faut internationaliser la question du développement du Congo.
Ça, il faut qu'il y ait des bailleurs.
Il faut absolument des investissements directs étrangers qui viennent de notre fait. Nous devons être en mesure de pondre les lois nécessaires pour être en mesure d'être incitatif, être créatif, être en mesure d'attirer les investisseurs ici. Mais ça doit être une démarche de grands combattants. Je pense que c'est la démarche dans laquelle doit s'inscrire le chef de l'État, le Premier ministre, les patrons du Parlement. Et ça, c'est un travail immédiat et il faut le faire pour avoir des résultats. Sinon, nous serons largement au-delà des mandats de gestion et il sera très difficile de convaincre les gens.
Voilà. Attirer donc les investisseurs, c'est ce que dit Al Kitenge. Mais puisque vous êtes attaqué à Orgaman, qui, selon vous, doit fermer, bon, ça doit avoir, à échéance, voilà, il précise, ça doit avoir choqué Richard Moukos. Qu'est-ce que vous répondez? Pourquoi, en fait, Orgaman ne peut pas s'investir dans la production, l'exportation du poisson congolais, au lieu de persister dans l'importation du poisson namibien, par exemple, le chéchard?
Je pensais que c'est Alex Tengali dit que donc, tous ces gens, tous ces Congolais qui se disent qu'ils ont l'argent pour faire de l'agriculture, bon, il parle d'Orgaman, donc je peux lui dire le contraire. L'Orgaman, à l'origine, ça s'appelait Sebo. C'est la société d'élevage à Bossangi, de l'Albanie orientale. Ils ont des grands élevages, ils sont à plus de 5000 bêtes.
Est-ce que vous le faites encore?
On le fait jusqu'à ces jours. Vous connaissez Jivel. Jivel a été racheté par l'Orgaman il y a 6 mois. Tout ça pour promouvoir l'agriculture et l'élevage.
Et pour répondre directement à la question,
c'est la seule société qui a de grandes fermes au pays. C'est une société belge. Ça, ça me fait la honte. C'est nous, Congolais, qui devrions faire ce que Orgaman est en train de faire. Orgaman, donc, à ses origines, l'Orgaman ne faisait pas les importations. L'Orgaman faisait l'abattage des porcs ici à la gare centrale. Il avait sa boucherie. Il a eu des déceptions. Il a été découragé depuis Mobutu jusqu'à ces jours.
Découragé par quoi?
La politique du pays. La paix Marco. appartenait à M. Damso. Il a voulu récupérer la Permaco il y a 3 ans pour relancer la pêcherie. On a donné à quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire, c'est qui? C'est
quelqu'un. On a donné à Lydia.
Pardon?
Lydia.
Ok.
Bon, ça, ce n'est qu'une parenthèse.
Ouais. C'est congolais quand même.
Donc, oui. Là, je parle en tant que congolais, donc. Parce que, donc, il y a beaucoup de congolais qui se disent qu'ils ont l'argent, donc, on sait qu'ils devaient faire ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui.
Ouais.
Donc, vous allez visiter cette ferme. Mais juste ici, à Kinoéza.
Ouais.
À Kinoéza, gare ici. Il a une grande ferme. Où vous trouverez des moutons, des vaches. Et aussi,
en conclusion, vous voulez dire
en
quoi?
En conclusion, je disais que pour les solutions, donc on a parlé ici donc de baisser les taxes,
attirer aussi les bailleurs extérieurs,
augmenter
la production, que vous vous évitiez d'importer plus et que vous exportiez. Voilà.
Moi, je dirais ceci. Heureusement que nous avons donc l'éminent honorable à côté de nous ici, qui est chargé de l'économie. Il y a de l'argent liquide, cash, dans ce pays qui traîne. Je ne sais pas si vous connaissez la FPI.
Fonds de promotion immobilière.
Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Depuis qu'on a créé ces trucs-là, on ne fait que fermer des industries ITEX Africa. On vient de fermer. Qu'on convertisse ça en fonds de promotion de l'agriculture pour promouvoir l'agriculture dans ce pays.
Voilà, monsieur le sénateur, vous répondez quoi justement là-dessus pour promouvoir en fait, les opérateurs économiques?
Les fonds de promotion de l'industrie, le mot le dit très bien. C'est pour la promotion des industries de transformation.
Et comment expliquer que l'Utex Africa disparaisse en France, sénateur Isaac Imereko?
Mais si dans chaque entreprise, ça dépend du secteur où on œuvre. Ça dépend du secteur. Et l'Utex Africa est dans le secteur de textiles. Qui a ses réalités? Qui a ses particularités? Qui n'ont peut-être pas la même chose que le secteur de l'agriculture. Vous comprenez? Mais c'est d'une manière indirecte. Aujourd'hui, si le fonds de promotion de l'industrie ne répond pas aux résultats qu'on attend de lui, maintenant il faut voir le problème à l'intérieur. Est-ce qu'il a la capacité d'intervenir d'une manière sensible sur le marché congolais?
Mais on espère que vous avez compris le message de l'opérateur économique,
oui.
Que vous allez faire un effort pour les aider en fait à stimuler la production.
La législation, s'il vous plaît.
C'est la législation, oui. Voilà. Un mot, parce qu'on doit prendre les réactions des auditeurs, Al Kilingue. Juste un mot.
Un mot, pour moi, un monsieur comme Damso, c'est un Congolais. Cet homme, il vit ici, il fait ses promotions ici, il s'enrichit ici, et il investit ici, c'est très respectable. L'appel qu'il lance aux autres Congolais, de souche et de peau, il reste valable pour Damso. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'offre publique doit s'améliorer en milieu rural, pour que les gens s'y sédentarisent et qu'ils y aient une promotion personnelle. Au jour d'aujourd'hui,
simplement, vous voulez dire quoi? Très simplement.
L'offre publique en milieu rural est nulle. L'État est absent. Les raisons d'y rester sont quasiment nulles. Laissez-moi vous donner une illustration chiffrée. Un ingénieur agronome qui vit à Kinshasa, 97 000 francs. Un ingénieur agronome qui vit en milieu rural, 17 000 francs. Pourquoi il resterait là?
Voilà, c'est sans commentaire. On prend Roger, Guy Roger Jean-Pala, voilà, bonsoir Guy Roger, pour les réactions des auditeurs.
Bonsoir Jean-Claude, Tilongo Michel de Issiron en province orientale estime que pour éviter la hausse de prix en RDC, que le gouvernement central accélère la réhabilitation des routes. Tadé de la ville province de Kinshasa pense que nos dirigeants s'accrochent plus sur des programmes classiques qui ne peuvent pas marcher dans notre contexte, car ils servent les puissances occidentales. Tant que l'agriculture sera manuelle, la RDC ne pourra pas stabiliser le prix des produits agricoles, estime Richard Kabongo de Kananga au Kasaï occidental. Enfin, Mouringi Nestor de Kisangani en province orientale pense qu'avec la mauvaise gouvernance, le SMIG le plus bas du monde, avec la crise mondiale, tout ceci ne pourront qu'étrangler le pauvre peuple congolais.
Merci beaucoup Guy Roger Nyampala, je reviens vers vous tout en vous demandant d'être vraiment précis, court dans vos réponses pour permettre pour vous aider aussi à répondre à toutes ces différentes questions. On commence par Richard Kabongo de Kananga au Kasaï occidental. Il dit, tant que l'agriculture sera manuelle, la RDC ne pourra pas stabiliser le prix des produits agricoles. Isaac Imereko, sénateur.
Oui, je réagis à cette question. Le développement dans l'agriculture, c'est un processus. n'est pas un fait ponctuel, on pose un acte et on a des résultats. C'est un processus qui doit se préparer à travers de lois, à travers ce qui existe pour pouvoir obtenir des résultats escomptés.
Mais qu'est-ce que vous faites concrètement là au niveau du Parlement et le gouvernement? Est-ce que vous le poussez pour qu'il y ait des mesures concrètes pour relancer l'agriculture par exemple?
Vous l'avez bien dit, nous légiférons. Le gouvernement gouverne. Et les projets sont initiés par le gouvernement. Nous les coulons sous forme de loi. Tout simplement. Ces lois-là qu'on mobilise les énergies pour arriver à atteindre un objectif bien déterminé.
Voilà. Chilongo, Michel de Issiro, en province orientale, lui pense que pour éviter la hausse de prix à RDC, que le gouvernement central accélère la réhabilitation des routes à Kitenge. En un mot.
Et il a totalement raison. Vous savez, lorsque vous faites 100 km en 8 heures et que de sous d'autres cieux, les 100 km sont faits en 1 heure, en termes de compétitivité, vous ne pouvez pas vous comparer. C'est ce qui justifie que certains produits chinois arrivent ici à moins cher que les produits produits localement. Et donc, les infrastructures, aussi bien routières, ferroviaires que portuaires, sont extrêmement importantes pour être en mesure de stimuler la mobilité des biens. Plus ils bougent, plus il y a des échanges commerciaux, plus l'argent circule, plus la richesse s'accumule sur le terrain congolais. Et c'est ça, à mon avis, il a totalement raison.
Totalement raison. Vous êtes de cet avis, Richard Moukoj, qu'avec des bonnes routes au niveau d'Orgaman et les opérateurs économiques en général, cela va vous aider à améliorer votre rendement et fournir le marché.
Et si on avait des bonnes routes, donc on avait des moyens de communication fiables, on n'aurait pas à importer les choses qu'on avait fait, on prendrait les poissons de l'académie. Parce qu'on semble qu'académie.
On répond directement à Kitenge.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de poissons à l'académie. Même en Mbandaka ici, les gens, donc, ils pêchent le matin, le soir, ils n'ont rien à faire avec le poisson, on les jette dans le fleuve. C'est qu'il y a celui qui a le courage de le boucaner, il le boucane un peu.
Est-ce que ce poisson-là intéresse aussi au Gaman, par exemple? Le Mbandaka l'académie, pourquoi vous ne pouvez pas l'offrir aussi en même temps que les chinchards?
Disons que donc, tout intéresse Orgaman, mais il faut avoir les quantités suffisantes pour la ville-province de Kinshasa. Pour votre donc, mémoire, la ville de Kinshasa et l'Interland consomment 10 000 tonnes de lithium par mois.
Voilà. Donc, on continue avec les autres réactions de nos auditeurs, avec Dikin Bondépé de Kisangani. Province orientale, pour éviter la variation de prix sur le marché, tous les Congolais doivent sérieusement se mettre au travail, sénateur Isaac Imereko.
C'est tout à fait correct. Il n'y a que le travail qui peut nous sortir de cette situation demain. Comme je l'ai dit au départ, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Ça doit déclencher en nous un déclic pour se comporter autrement demain. Vous avez cité le cas des poissons. À Bouria, à Kasseigne, au lac Albert, le poisson meurt de vieillesse. Et au marge du port, même. Alors, s'il y avait un problème de facture amélioré, aujourd'hui, entre Bounia et Xangan, les ponts n'existaient pas. Et c'est toute la ville de Xangan qui était alimentée par Bounia. Aujourd'hui, les ponts n'existaient pas. Donc, tout le problème de facture reste un facteur déterminant dans ce problème de hausse des prix.
Voilà. On va terminer avec vous, Al Kitenge, sur ce problème des Congolais qui doivent travailler. Et il y a même John Peter, qui est à Moudrou d'Issiro encore, qui lui se demande même comment la RDC pourra-t-elle faire face à cette hausse de prix alors que les Congolais détestent les travaux de champs. On termine avec vous.
80% de notre population vivent dans les milieux ruraux. Et quand on dit qu'il faudrait que le plus de personnes possible travaillent, moi j'ai envie de dire une chose que j'ai déjà dit sur vos antennes, il faut une économie asymétrique inverse.
C'est-à-dire?
Ça veut dire que,
descendre
de manière tout à fait simple, ça veut dire que quelqu'un qui travaille au centre-ville, où l'État donne l'électricité, l'eau, les routes et tout le reste, il touche 100$. Pour le même travail, quelqu'un qui travaille dans un milieu rural où il n'y a pas d'eau, où l'offre publique est faible, doit avoir 130-140$.
Qu'est-ce qu'il faut?
Pour ça, il faudrait que la loi, les gens qui sont au Parlement, décident avec le gouvernement d'inverser le module salarial. Parce que pendant très longtemps, cela a été injuste et malheureusement, nous n'avons pas pu être en mesure de tirer les leçons. Mais au jour d'aujourd'hui, ça nous parle à très très haute voix et il faudrait que nous comprenions. La deuxième des choses, et peut-être,
peut-être la dernière, il faudrait
que les gens comprennent que notre pays doit pouvoir utiliser plus l'électricité hydroélectrique plutôt que le pétrole. Et la dernière chose, on a besoin d'une monnaie qui représente la réalité de notre pays.
Merci, Al Kitenge, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci, sénateur Isati. Merci, Richard Moukoj et Al Kitenge. C'est la fin de cette émission. Alain Goy était à la mise en onde. Kelly Kouté, lui, elle, qui était à la réalisation. Guy Roger vient parler à la préparation de l'émission. Et Jean-Claude Toumba Kamanga, nous vous disons merci de rester fidèle à Radio Capitale.